Souvenirs, deuxième partie, adolescence, chapitre 39, Volodia. Plus j'avance dans le récit de cette époque de ma vie, plus la route me paraît pénible et fatigante. Rarement, bien rarement, je retrouve parmi mes souvenirs d'alors quelques éclairs de ces émotions ardentes et sincères qui avaient si constamment et si doucement réchauffé mes premières années. Involontairement, je voudrais me hâter de sortir de ce désert de l'adolescence pour arriver au temps heureux où je connus de nouveau les sentiments vrais et tendres, où la noble amitié illumina de sa brillante lumière la fin de ma croissance et marqua le début d'une nouvelle période de ma jeunesse, période exquise, poétique et charmante. Je ne vais pas suivre ici, heure par heure, mes souvenirs. Je me contenterai d'effleurer les principaux. Depuis l'époque où je suis parvenue dans mon récit, jusqu'à ma liaison avec l'homme extraordinaire qui a exercé une influence décisive et bienfaisante sur mon caractère et mes tendances. Volodia va entrer au premier jour à l'université. Il prend des leçons à part, je l'écoute avec envie, et avec un respect involontaire, donner de petits coups sur le tableau noir avec sa craie, en parlant de fonctions, de sinus, de coordonnées et autres mots du même genre, qui me paraissent autant de mystères insondables. Un dimanche, après le dîner, tous les maîtres et deux professeurs se réunissent dans la chambre de grand-mère, en présence de papa et de quelques invités. Ils font une répétition de l'examen de l'université. Et Volodia, à la grande joie de grand-mère, fait preuve de connaissances extraordinaires. On me pose aussi quelques questions, mais je réponds très mal. Les professeurs font des efforts visibles pour dissimuler mon ignorance devant grand-mère, et cela me déconcerte encore plus. Du reste, on fait peu attention à moi. Je n'ai que 15 ans, par conséquent, j'ai encore 1 an pour me préparer. Volodia ne descend plus que pour le dîner. Il passe toutes ses journées et même ses soirées en haut à travailler. On ne l'y force pas, c'est volontairement. Il a énormément d'amour-propre et ne veut pas d'un examen médiocre. Il veut être brillant. Le jour est arrivé. Volodia met son habit bleu à boutons de bronze, ses bottes vernies et sa montre d'or. Le phaéton de papa vient se ranger devant le perron. Colia défait le tablier, Volodia et Saint-Jérôme montent et s'en vont en voiture à l'université. Les filles, Catherine surtout, regardent par la fenêtre avec des figures rayonnantes de joie et d'orgueil. La personne élégante de Volodia en train de s'asseoir dans le phaéton. Papa répète « Dieu veuille, Dieu veuille !» Et grand-mère, qui s'est aussi traînée jusqu'à la fenêtre et dont les yeux sont pleins de larmes, envoie des signes de croix à Volodia en murmurant je ne sais quoi, jusqu'à ce que le phaéton ait tourné le coin. Volodia revient. Tout le monde lui demande avec impatience « Eh bien, tu as bien passé ? Combien ?» Il suffit de regarder son visage épanoui pour comprendre que tout va bien. Volodia a eu 5. Le lendemain, même bon souhait et mêmes angoisses à son départ, même impatience et même joie à son retour. 9 jours se passent ainsi. Le 10e, c'est le dernier examen, le plus difficile, l'examen de religion. Tout le monde est aux fenêtres et l'agitation est encore plus grande que les jours précédents. Il est déjà 2 heures et pas de Volodia. « Mon Dieu, papa, les voilà! Les voilà !» crie Lioubotchka en collant sa figure au carreau. En effet, Volodia est assis dans le phaéton, à côté de Saint-Jérôme, mais il n'a plus son habit bleu et sa casquette grise. Il est en uniforme d'étudiant. Il a un collet bleu de ciel brodé, un tricorne et une épée dorée. « Si tu étais vivante !» crie grand-mère en apercevant Volodia en uniforme, et elle s'évanouit. Volodia se précipite, l'air radieux, dans l'antichambre. Il m'embrasse, il embrasse Lioubotchka et Mimi, il embrasse Catherine, qui rougit jusqu'aux oreilles. Volodia ne se connaît plus de joie. Et comme il est bien en uniforme! Comme le collet bleu de ciel va bien avec ses petites moustaches noires encore naissantes! Quelle jolie taille, fine et longue, et quelle tournure distinguée! En ce jour mémorable, nous dînons tous dans la chambre de grand-mère. Tous les visages sont rayonnants, et au moment de l'entremets, le maître d'hôtel apparaît avec une physionomie de circonstance, solennelle et joyeuse, tenant une bouteille de champagne enveloppée dans une serviette. Grand-mère boit du champagne, pour la première fois depuis la mort de maman. Elle vide toute une coupe à la santé de Volodia et pleure de nouveau de joie en le regardant. À présent, Volodia sort seul, dans un équipage à lui. Il reçoit, chez lui, ses amis à lui. Il fume, va au bal, et même un jour, je l'ai vu de mes yeux boire deux bouteilles de champagne dans sa chambre avec ses amis. À chaque verre, il portait la santé de certaines personnes inconnues, et ils se disputèrent à qui aurait le fond de la bouteille. Volodia dîne pourtant régulièrement à la maison, et après le dîner, il se tient comme autrefois dans le divan, où il a perpétuellement des conversations mystérieuses avec Catherine. Autant que je puis entendre, car je n'ai point de part à leurs entretiens, ils parlent uniquement de héros de romans, de jalousie, d'amour. Il m'est absolument impossible de comprendre ce qui peut les intéresser dans ces conversations, pourquoi ils sourient d'un air fin et se disputent avec vivacité. En général, je remarque qu'il existe entre Catherine et Volodia, en dehors de l'amitié qui est naturelle entre camarades d'enfance, certaines relations bizarres qui les éloignent de nous et créent entre eux je ne sais quel lien mystérieux. Chapitre 40. Catherine et Lioubotchka. Catherine a 16 ans. Elle a grandi. Les formes anguleuses, la gaucherie et la timidité de l'âge ingrat ont fait place à la grâce et à la fraîcheur de la fleur qui vient d'éclore. Et pourtant, elle n'a pas changé. Toujours les mêmes yeux bleu clair et le même regard souriant. Toujours le même petit nez formant presque une ligne droite avec le front et les mêmes narines fermes. Toujours la même petite bouche avec un sourire brillant. Les mêmes fossettes sur les joues roses et transparentes. Les mêmes bras blancs. Et toujours le nom qui lui convient par excellence est celui de « jeune fille proprette ». Il n'y a de nouveau chez elle que sa grosse natte blonde, qu'elle porte comme les grandes, et sa jeune poitrine, dont la naissance la réjouit et l'embarrasse. Lioubotchka est une toute autre fille, bien qu'elles aient grandi et qu'elles aient été élevées ensemble. Lioubotchka est petite, rachitique et mal faite, avec des pieds de canard. Elle n'a de bien dans la figure que les yeux, mais ils sont vraiment magnifiques, grands, noirs, avec une impression indéfinissable de gravité et de naïveté. Il est impossible de ne pas les remarquer. Lioubotchka est toujours simple et naturelle. Catherine essaye toujours de ressembler à quelqu'un. Lioubotchka regarde les gens en face, et il lui arrive de les fixer si longtemps avec ses grands yeux noirs qu'elle se fait gronder. On lui dit que ce n'est pas poli. Catherine baisse les yeux, cligne les paupières et soutient qu'elle est myope, bien que je sache qu'elle y voit parfaitement. Lioubotchka n'aime pas les grimaces devant le monde, et quand une personne en visite l'embrasse, elle fait la moue en disant qu'elle ne peut pas souffrir les tendresses. Catherine, au contraire, devient particulièrement tendre pour sa mère quand il y a du monde, et elle aime à se promener dans la salle avec une autre jeune fille en se tenant par la taille. Lioubotchka est une grande rieuse. Elle a des accès de fou rire pendant lesquels elle court par la chambre en agitant les mains. Catherine se cache la bouche avec ses mains ou son mouchoir dès qu'elle commence à rire. Lyubotchka se tient droite sur sa chaise et marche les mains pendantes. Catherine penche la tête un peu en côté et marche les mains croisées. Lyubotchka est dans une joie intense quand un homme lui parle et déclare qu'elle épousera certainement un hussard. Catherine prétend que tous les hommes lui font horreur, qu'elle ne se mariera jamais, et elle n'est plus la même. Elle a l'air d'avoir peur quand un homme lui parle. Lyubotchka est dans une indignation perpétuelle contre Mimi à cause de ses corsets, qui la serrent et l'empêchent de respirer, et elle aime assez à manger. Catherine met son doigt sous la pointe de sa robe pour nous montrer qu'elle est trop large et mange à peine. Lyubotchka aime à dessiner la tête. Catherine ne dessine que des fleurs et des papillons. Lyubotchka joue avec beaucoup de netteté les concertos de Field et quelques sonates de Beethoven. Catherine joue des valses et des variations, n'a pas une mesure carrée, tape, met constamment la pédale et ne commence jamais à jouer sans avoir fait avec sentiment deux ou trois arpèges. Avec tout cela, dans mes idées d'alors, Catherine ressemblait plus à une grande et me plaisait beaucoup plus à cause de cela. Chapitre 41. Papa. Papa est remarquablement gai depuis l'entrée de Volodia à l'université et dîne plus souvent que d'habitude avec grand-mère. Je sais par Kolia que sa gaieté provient de ce qu'il a beaucoup gagné au jeu dans les derniers temps. C'est au point que, le soir, avant d'aller au cercle, il lui arrive de s'asseoir au piano, de nous faire ranger autour de lui et de se mettre à chanter dans des airs ziganes en frappant du pied, à certains passages, avec ses souliers plats. Il ne pouvait pas souffrir les talons et n'en portait jamais. Il faut voir alors l'admiration comique de Lyubotchka, qui est sa favorite, et qui, de son côté, a un culte pour lui. De temps en temps, il entrait dans la classe et m'écoutait d'un air sévère réciter ma leçon. Je m'apercevais alors, aux quelques mots qu'il plaçait pour me reprendre, qu'il en savait encore moins que moi. D'autres fois, il nous faisait des signes à la dérobée quand grand-mère se mettait à quereller et à gronder tout le monde sans raison. « Nous avons eu notre galop, nous autres enfants », disait-il ensuite. En général, il descendait peu à peu des hauteurs inaccessibles où mon imagination l'avait placé. Je baise toujours sa grande main blanche avec une affection et un respect aussi sincères, mais je me permets de songer à lui, de juger ses actes, et je suis effrayée des idées qui me viennent alors involontairement. Je n'oublierai jamais un incident qui fit naître en moi beaucoup de ces idées et me causa de grandes souffrances morales. Un jour, tard dans la soirée, il entra au salon en habit noir et gilet blanc pour prendre Volodia et l'emmener au bal. Volodia était encore à s'habiller. Grand-mère attendait dans sa chambre qu'il vint se montrer. Elle avait l'habitude, les soirs de bal, de le faire appeler pour passer l'inspection, le bénir et lui faire ses recommandations. Dans la salle, éclairée par une seule lampe, Mimi se promenait de long en large avec Catherine. Lyubotchka était au piano et étudiait le deuxième concerto de Field, le morceau favori de maman. Je n'ai jamais vu un air de famille aussi frappant que celui qui existait entre ma sœur et maman. La ressemblance n'était ni dans les traits ni dans la taille, mais dans un je ne sais quoi d'indéfinissable, dans les mains, dans la démarche, et surtout dans la voix et dans certaines expressions. Quand Lyubotchka s'impatientait et disait « On viendra donc toute la vie me contrarier !» elle prononçait « toute la vie », qui était aussi une expression de maman, entraînant comme elle sur « toute, toute la vie ». On croyait entendre maman. C'était surtout au piano que la ressemblance était extraordinaire, non seulement dans le jeu, mais dans toutes les attitudes. Lioubotchka avait la même manière d'arranger sa robe en s'asseyant et de tourner les pages de la main gauche en les prenant par le haut. Elle donnait le même coup de poing d'impatience sur le clavier quand elle ne venait pas à bout d'un passage difficile, avec le même « Ah, mon Dieu !» Elle avait la même délicatesse et la même netteté dans le jeu, ce délicieux jeu de l'école de Field, si bien nommé « jeu perlé », et que n'ont pu faire oublier les tours de force des pianistes modernes. Papa entra à petits pas précipités et s'approcha de Lioubotchka, qui s'arrêta en l'apercevant. « Non, continue, Liouba, » dit-il en la faisant rasseoir. « Tu sais que j'aime à t'entendre jouer. » Lioubotchka se remit à jouer, et papa resta longtemps assis, en face d'elle, appuyé sur son coude. Ensuite, il fut pris de son tic dans l'épaule, se leva et se mit à arpenter la chambre. Chaque fois qu'il passait près du piano, il s'arrêtait et considérait longtemps Lioubotchka. Je m'aperçus à ses mouvements et à sa démarche qu'il était ému. Au bout de quelques jours, il vint se placer derrière la chaise de ma sœur, la baisa sur ses cheveux noirs, se détourna vivement et reprit sa promenade. Le morceau fini, quand Lioubotchka vint à lui en disant « Est-ce bien ?» Il lui prit la tête et l'embrassa sur le front et sur les yeux avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue. « Oh mon Dieu, tu pleures ?» dit tout à coup Lioubotchka en fixant sur son visage de grands yeux étonnés. « Je te demande pardon, cher petit papa. J'avais tout à fait oublié que c'était le morceau de maman. » « Non, ma chérie, joue-le-moi souvent, » dit-il d'une voix qui tremblait. « Si tu savais comme cela me fait du bien de pleurer avec toi. » Il l'embrassa encore une fois, et, s'efforçant de dominer son trouble, l'épaule toujours secouée par son tic, il se dirigea vers la porte du corridor qui conduisait chez Volodia. « Voldemar, es-tu bientôt prêt ? » cria-t-il en s'arrêtant au milieu du corridor. Au même instant, Masha, la femme de chambre, passait. En voyant le baril, elle baissa la tête et voulut faire un détour. Il l'arrêta. « Tu es tous les jours plus jolie, » dit-il en se penchant vers elle. Masha rougit et baissa encore plus la tête. « Permettez, » murmura-t-elle. « Voldemar, es-tu bientôt prêt ?» répéta papa en secouant son épaule et en toussaillant. Masha passait devant lui et il m'avait aperçu. J'aime mon père, mais la raison est indépendante du cœur, et elle suggère souvent à l'homme des idées qui froissent ses sentiments, des idées incompréhensibles et cruelles pour le cœur. J'ai beau m'efforcer de les écarter, il me vient des idées de ce genre. Chapitre 42. Grand-mère. Grand-mère s'affaiblit de jour en jour. C'est de plus en plus souvent dans sa chambre qu'on entend sa sonnette, la voix grondeuse de Gacha et les bruits de porte qu'on frappe. Elle ne nous reçoit plus dans son cabinet, assise dans le fauteuil Voltaire. Elle nous reçoit dans son lit haut, sur ses oreillers de dentelle. En lui disant bonjour, je remarque sur sa main une enflure luisante d'un blanc jaunâtre et je sens dans la chambre la même odeur lourde que j'avais sentie 5 ans auparavant dans la chambre de maman. Le médecin vient 3 fois par jour et il y a eu plusieurs consultations. Mais le caractère de grand-mère n'a pas changé. Elle est toujours hautaine et cérémonieuse avec toutes les personnes de la maison, en particulier avec papa. Elle traîne les mots juste de la même manière, lève toujours les sourcils et dit toujours « Mon cher !» Il y a déjà plusieurs jours qu'on ne nous a laissé entrer chez elle, et un matin, à l'heure des leçons, Saint Jérôme me propose d'aller me promener en traîneau avec Lioubotchka et Catherine. J'ai beau remarquer, en montant en traîneau, qu'on a mis de la paille dans la rue sous les fenêtres de grand-mère et que certains individus en cafetan bleu se tiennent à notre porte, je ne peux absolument pas comprendre pourquoi on nous envoie promener en traîneau à une heure aussi indue. Pendant tout le temps de la promenade, Lioubotchka et moi sommes dans un de ces états de gaieté où il suffit d'un mot, d'un geste, d'un rien pour faire éclater le rire. Un marchand ambulant saisit son éventaire et traverse le chemin en courant. Nous rions. Un traîneau déguenillé rattrape le nôtre au galop et le cocher agite les extrémités de ses guides. Nous éclatons. Le fouet de Philippe s'accroche à l'arbre du traîneau et Philippe se retourne en disant « Hé !» Nous nous tordons. Mimi déclare d'un air mécontent qu'il n'y a que les sots qui rient sans cause. Lioubotchka devient pourpre de l'effort qu'elle fait pour ne pas rire et me regarde en dessous. Nos yeux se rencontrent et nous partons d'un tel fou rire que nous en pleurons et que nous étouffons. Dès que nous commençons à nous calmer, je regarde Lioubotchka en prononçant un mot de convention que nous avions adopté depuis quelque temps et qui a le don de nous faire rire. Et nous repartons. En rentrant, je venais d'ouvrir la bouche pour faire à Lioubotchka une magnifique grimace lorsque mes yeux rencontrèrent un couvercle de cercueil noir appuyé contre le battant de la porte du perron. Je restai la bouche ouverte, figée dans ma grimace. « Votre grand-mère est morte, » dit saint Jérôme, tout pâle, en s'avançant au-devant de nous. Tant que le corps de grand-mère fut dans la maison, j'éprouvais l'impression pénible que cause la peur de la mort. Je veux dire que ce cadavre me rappelait avec une insistance désagréable qu'il faudrait aussi mourir un jour, et c'est une idée que nous sommes accoutumés à associer à un sentiment de tristesse. Je ne regrettais pas grand-mère. À peu près personne ne la regrettait sincèrement. La maison avait beau être pleine de visites en deuil, personne n'avait de chagrin, à l'exception d'un seul être, dont le désespoir violent me frappa plus que je ne saurais l'exprimer. Cet être, c'était Gacha, la femme de chambre. Elle alla s'enfermer dans le grenier, et là, pleurant sans discontinuer, elle se maudissait, s'arrachait les cheveux et s'écriait, sans vouloir rien écouter, que la mort seule pouvait la consoler de la perte de sa chère maîtresse. Je répète qu'en matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de sincérité. Grand-mère n'est plus, mais son souvenir est encore vivant dans la maison, et elle y est l'objet de commentaires variés. Ces commentaires ont principalement pour objet le testament qu'elle a fait avant de mourir et que personne ne connaît, à l'exception du prince Ivan Ivanovitch, son exécuteur testamentaire. Je remarque une certaine émotion parmi les gens de grand-mère, et je les entends souvent discuter ce qu'elle aura laissé à chacun. J'avoue qu'involontairement, je pense avec satisfaction que nous allons hériter. Au bout de 6 semaines, Kolia, la gazette ordinaire de la maison, me raconta que grand-mère laissait sa fortune à Lioubotchka et qu'elle lui donnait pour tuteur, jusqu'à son mariage, non point papa, mais le prince Ivan Ivanovitch. Chapitre 43. Moi. Il ne me reste plus que quelques mois avant d'entrer à l'université. Je travaille bien. Non seulement je ne tremble plus en attendant mes maîtres, mais je m'intéresse à la classe. J'ai du plaisir à réciter couramment ma leçon. Je me prépare à entrer en sciences, et j'avoue que j'ai choisi les mathématiques uniquement parce que les mots sinus, tangente, différentiel, intégrale, etc. me plaisaient extraordinairement. Je suis beaucoup moins grand que Volodia, large et trapu. Je suis resté laid et je continue à m'en désoler. Je tâche d'avoir l'air original. Une seule chose me console. Papa a dit un jour que j'avais une laideur intelligente, et j'en suis tout à fait convaincu. Saint Jérôme est content de moi. Il fait mon éloge, et non seulement je ne le hais plus, mais quand il dit qu'avec mes moyens, avec mon intelligence, il serait honteux de ne pas faire ceci ou cela, il me semble presque que je l'aime. J'ai cessé depuis longtemps de guetter ce qui se passe dans la chambre des servantes. J'ai honte de me cacher derrière les portes. Et de plus, j'avoue que la conviction que Masha aime Vassili m'a un peu refroidi. Le mariage de Vassili achève de me guérir de cette malheureuse passion. J'en ai moi-même sollicité l'autorisation de papa sur la prière de Vassili. Quand les mariés, portant des bonbons sur un plateau, viennent remercier papa et que Masha, coiffée d'un petit bonnet à ruban bleu de ciel, nous remercie aussi tous de je ne sais quoi et nous baise sur l'épaule, je sens la pommade à la rose de ses cheveux, mais je n'éprouve pas la moindre émotion. En somme, je commence à me corriger de mes défauts d'adolescent, sauf pourtant du principal, qui me fera encore beaucoup de mal dans ma vie, la rage de raisonner. Chapitre 44. Les amis de Volodia. Lorsque je me trouvais avec les amis de Volodia, je ne jouais qu'un rôle humiliant pour mon amour-propre. Néanmoins, j'aimais à être dans la chambre de mon frère quand il avait du monde. Je m'asseyais et j'observais tout, sans rien dire. Ses visiteurs les plus fréquents étaient l'adjudant Dubkov et le prince Nekliudov. Étudiant Dubkov était un petit brun musculeux qui avait les jambes trop courtes et n'était plus de la première jeunesse, mais point laid et toujours gai. C'était un de ces individus bornés qui plaisent justement parce qu'ils sont bornés. Ne voyant jamais qu'un côté des choses, ils sont perpétuellement entraînés. Leurs jugements sont exclusifs et faux, mais toujours sincères et séduisants. Il n'est pas jusqu'à leur égoïsme étroit qui ne paraissent aimables et ne sachent se faire pardonner. Dubkov possédait en outre, à nos yeux, un double charme, l'air militaire et la taille que les très jeunes gens, on ne sait pourquoi, confondent avec ce « comme il faut » auquel on attache tant de prix à leur âge. Au surplus, Dubkov était réellement ce qu'on appelle « un homme comme il faut ». Une seule chose m'était désagréable. Quand il était là, Volodia avait l'air honteux de mes actions les plus innocentes, et surtout de ma jeunesse. Nekliudov était laid. Un homme ne peut pas être beau avec de tout petits yeux gris, un front bas, des jambes et des bras trop longs. Il n'avait de bien que sa haute taille, son beau teint et ses magnifiques dents. Tout laid qu'il fût, ses petits yeux bridés et brillants, son sourire mobile, tantôt sévère, tantôt presque enfantin, donnaient à sa physionomie un caractère si original et si énergique qu'il ne passait jamais inaperçu. Il devait être très timide, car pour un rien, il rougissait jusqu'aux oreilles. Sa timidité ne ressemblait pas à la mienne. Plus il rougissait, plus son visage exprimait la résolution. On aurait dit qu'il s'en voulait à lui-même de sa faiblesse. Bien qu'il parût au mieux avec Dubkov et Volodia, on sentait que le hasard seul les avait rapprochés. Ils étaient trop différents. Volodia et Dubkov redoutaient, pour ainsi dire, tout ce qui ressemblait à des idées sérieuses et à de la sensibilité. Nekliudov, au contraire, était enthousiaste au plus haut degré et se lançait souvent, au mépris des railleries, dans la philosophie et les questions de sentiment. Volodia et Dubkov aimaient à parler de leurs amours. Ils devenaient amoureux tout d'un coup de plusieurs personnes à la fois, les mêmes pour tous deux. Nekliudov se fâchait sérieusement toutes les fois qu'on faisait allusion à sa passion pour une certaine rousse. Volodia et Dubkov se permettaient souvent de se moquer de leur famille. Nekliudov était hors de lui lorsqu'on faisait une remarque désagréable sur sa tante, pour laquelle il avait une sorte d'adoration. Volodia et Dubkov s'en allaient, après souper, quelque part où ils n'emmenaient pas Nekliudov, qu'ils appelaient « la jeune fille rousse ». Le prince Nekliudov me frappa la première fois que je le vis, tant par sa conversation que par son extérieur. Cependant, bien que nous nous fussions trouvés beaucoup d'idées communes, peut-être même à cause de cela, le sentiment qu'il m'inspira à cette première rencontre était bien éloigné de la sympathie. Il m'avait déplu par son regard pénétrant, sa voix ferme, son air orgueilleux, et surtout par l'indifférence absolue qu'il m'avait témoignée. Pendant la conversation, j'eus à maintes reprises une envie folle de le contredire. J'aurais voulu le rouler pour le punir de son orgueil, lui montrer que j'étais intelligent, bien qu'il ne fît aucune attention à moi. La timidité me retint. Chapitre 45. Le début de l'amitié. Volodia était couché sur le divan et lisait un roman français. Dubkov et Nekliudov entrèrent, le chapeau sur la tête et en paletot. « Bonjour, diplomate !» dit Dubkov en me tendant la main. Les amis de Volodia m'appelaient « le diplomate » parce qu'un jour, après un dîner chez ma grand-mère, celle-ci avait dit, devant eux, à propos de notre avenir, que Volodia serait militaire, mais qu'elle espérait me voir avec l'habit noir et le toupet du diplomate. À ses yeux, on n'était pas diplomate sans toupet. Ce soir-là, chez Volodia, la conversation tomba sur l'amour-propre. Je soutins que nous en avons tous, que tout ce que nous le faisons par amour-propre, qu'il n'y a pas un seul homme qui ne se croit meilleur et plus intelligent que tous les autres. « Je puis répondre pour moi, » dit Nekliudov, « que j'ai rencontré des gens que je reconnaissais pour plus intelligents que moi. »« C'est impossible !» répliquai-je avec conviction. Nekliudov me regarda fixement. « Pensez-vous vraiment ce que vous dites ?»« Très sérieusement, » répliquai-je, « je vais vous le démontrer. Pourquoi est-ce que, tous tant que nous sommes, nous nous aimons plus que les autres ?» Parce que nous pensons que nous valons mieux qu'eux, que nous sommes plus dignes d'affection. Si nous trouvions les autres meilleurs que nous, nous les aimerions plus que nous-mêmes, ce qui n'arrive jamais. Il me semble que j'ai raison, » ajoutai-je avec un sourire de triomphe involontaire. Nekliudov garda un instant de silence. « Je ne vous aurais jamais cru si intelligent, » dit-il enfin, avec un sourire si bon et si aimable que je me sentis soudain parfaitement heureux. La louange agit si fortement, non seulement sur les sentiments de l'homme, mais sur son esprit, qu'il me sembla tout à coup avoir grandi considérablement en intelligence, et que les idées m'arrivèrent en foule avec une rapidité inaccoutumée. De l'amour-propre, nous en vîmes insensiblement à parler de l'amour, et ce nous fut un thème inépuisable. Nos discours devaient paraître absurdes aux simples auditeurs, tant ils étaient confus et nos idées étroites. Pour nous, ils avaient une haute portée. Nos âmes étaient si bien en harmonie qu'il suffisait de toucher une corde quelconque chez l'un de nous pour éveiller un écho chez l'autre. Nous jouissions de sentir toutes les cordes que nous effleurions dans la conversation vibrer à l'unisson. Il nous semblait que nous n'aurions jamais assez de temps ni assez de paroles pour échanger toutes les idées qui demandaient à sortir. À dater de ce jour, des relations assez bizarres, mais extrêmement agréables, s'établirent entre moi et Dmitri Nekliudov. En public, il ne faisait aucune attention à moi. Dès que nous étions seuls, nous allions nous installer dans un bon petit coin et nous commencions à discuter, oubliant le monde entier et ne nous apercevant pas de la fuite du temps. Nous parlions vie future, art, carrière à suivre, mariage, éducation des enfants, et jamais il ne nous venait dans la tête que tout ce que nous disions était insensé. Cette idée ne nous venait pas, parce que nos absurdités étaient des absurdités intelligentes. Or, la jeunesse aime l'esprit, elle y croit encore. À l'âge que nous avions alors, toutes les forces de l'âme sont dirigées vers le futur, et ce futur revêt des formes si variées, si vivantes et si enchanteresses, grâce à des espérances fondées, non sur l'expérience, mais sur des rêves de bonheur, que le rêve suffit pour donner à la jeunesse le bonheur réel. Lorsque nous discutions métaphysique, ce qui était un de nos sujets favoris, j'aimais l'instant où les idées se succèdent de plus en plus vite et où, à force d'être de plus en plus abstraites, elles deviennent tellement nuageuses qu'on ne peut plus les exprimer et qu'on dit tout autre chose que ce qu'on voudrait dire. J'aimais l'instant où, à force de s'élever dans la région de la pensée, on en découvre tout à coup l'immensité et l'on reconnaît qu'il vous est impossible d'aller plus loin. Il arriva que pendant les jours gras, Nekhliudov fut si absorbé par ses plaisirs qu'il ne causa pas une seule fois avec moi. Il venait pourtant plusieurs fois par jour à la maison. Je fus tellement froissé que je recommençai à le trouver orgueilleux et désagréable. Je n'attendais qu'une occasion pour lui montrer que je ne tenais pas du tout à sa société et que je n'éprouvais rien de particulier pour lui. La première fois qu'il voulut causer avec moi après le carnaval, je dis que j'avais à travailler et je montai. Au bout d'un quart d'heure, la porte de la classe s'ouvrit et Nekhliudov vint à moi. « Je vous dérange ?»« Non. » J'avais pourtant l'intention de répondre qu'effectivement j'étais occupée. « Pourquoi êtes-vous parti de chez Volodia ? Il y a si longtemps que nous n'avons causé. J'en ai pris l'habitude et il me semble qu'il me manque quelque chose. » Mon dépit s'évanouit et Dmitri me parut de nouveau le meilleur et le plus aimable des hommes. « Je suis sûr, dis-je, que vous savez pourquoi je suis parti. »« Peut-être, répliqua-t-il en s'asseyant près de moi. Mais si j'ai deviné pourquoi, je ne peux pas le dire. Vous, vous le pouvez. » Je vais le dire. Je suis parti parce que je vous en voulais. Ou plutôt, j'étais fâché. Tenez, en deux mots, j'ai toujours peur que vous ne me méprisiez à cause de ma jeunesse. Savez-vous pourquoi nous nous entendons si bien ? Dit-il en répondant à ma confession par un regard bon et intelligent. Pourquoi je vous aime plus que des gens que je connais davantage et avec qui j'ai plus de points de contact ? Je viens de décider pourquoi. Vous avez une qualité qui est rare et précieuse, la sincérité. Oui, je dis toujours juste la chose dont j'ai honte, mais je ne la dis qu'aux gens dont je suis sûr. Oui, mais pour être sûr d'un homme, il faut être extrêmement lié avec lui, et nous ne le sommes pas encore. Rappelez-vous, Nicolas, ce que nous avons dit de l'amitié. Pour être de vrais amis, il faut être sûr l'un de l'autre. Il faut être sûr que l'un ne répétera pas ce que l'autre aura dit. Et voyez, les choses importantes et intéressantes sont justement celles que nous ne nous dirions pour rien au monde. Et quelle vilaine pensée ! Des pensées si basses que, si nous avions su qu'il faudrait nous les avouer mutuellement, jamais elles n'auraient osé nous entrer dans la tête. Savez-vous l'idée qui m'est venue, Nicolas ? Reprit-il en se levant et en se frottant les mains avec un sourire. Faisons cela, et vous verrez combien cela nous sera utile à tous les deux. Donnons-nous notre parole de tout nous dire. Nous nous connaîtrons mutuellement et nous ne serons pas gênés. Pour ne pas avoir peur des étrangers, nous nous donnerons aussi notre parole de ne jamais parler de l'un, de l'autre à personne. Faisons cela. Faisons-le. Effectivement, nous avons fait cela. Je raconterai plus tard ce qui en résulta. Alphonse Karr a dit que, dans toute affection, l'un aime, l'autre se laisse aimer. L'un embrasse, l'autre tend la joue. L'idée est parfaitement juste. Dans notre amitié, j'embrassais, Dimitri tendait la joue. Mais il était prêt à embrasser aussi. Nous nous aimions également, parce que nous nous connaissions et nous nous apprécions réciproquement. Cela n'empêche que Nekhliudov avait l'influence et que je me soumettais. Il va de soi que je m'assimilais involontairement sa manière de voir, dont le fond était un culte enthousiaste pour la vertu idéale, associé à la conviction que la destinée de l'homme est le progrès continu. Rien ne nous semblait alors plus facile que de régénérer l'humanité, de détruire les vices et de rendre tout le monde heureux. Rien ne nous semblait plus simple que de nous corriger de tous nos défauts, d'acquérir toutes les vertus et d'être heureux. Ces nobles rêves de la jeunesse étaient-ils réellement ridicules? À qui la faute s'ils ne se sont pas réalisés? Dieu seul le sait.